Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission Page en partage. Je vous rappelle que la semaine prochaine, normalement, c'est le retour de Sophie et elle va vous présenter également des auteurs, des libraires, des bibliothécaires et également des livres locaux. Donc, comme on le fait toutes les semaines depuis maintenant plusieurs années, que ce soit avec Gaël Guiton ou donc maintenant Sophie. Et en attendant, Sophie qui est en vacances en métropole, eh bien, je la remplace et j'invite également, quand je peux, certaines personnalités du Sud. Et là, ben, on a un revenant, on peut le dire, qui est Thierry Bertil. Thierry, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour Roger, bonjour Radio Sud Plus.
Alors, tu te fais rare depuis quelques années, tu pourrais faire partie de la page du quotidien, la page vacances. Que sont-ils devenus?
Oui.
Parce qu'on ne te voit plus. Tu m'avais parlé il y a deux ou trois ans sur la radio que tu voulais revenir un petit peu sur le devant de la scène, et la scène au sens propre du mot, puisque tu voulais te remettre un peu au théâtre.
Ça a été fait, en tout cas ça a été pensé, voulu. J'ai travaillé, j'ai pu refaire une mise en scène assez importante en 2018 pour une école de danse, pour une comédie musicale. Et puis après, la situation a fait que bah, les contrats ne sont plus venus.
Voilà. Victime du Covid. Voilà,
absolument.
Victime indirecte, comme malheureusement beaucoup d'artistes, puisque nous ne sommes pas essentiels, hein, c'est sûr. Donc, on va quand même, parce qu'il y a des jeunes à l'écoute qui ne savent même pas qui est Thierry Bertil.
Ah, pas du tout.
Ne pas confondre avec Wilfried,
voilà.
Hein, qui écrit des bouquins hein, aussi.
Mais,
il écrit, Wilfried Bertil, sur l'histoire de la Réunion, entre autres, mais ce n'est pas la même famille. Hein,
c'est pas la même famille. En tout cas, ceux qui sont nés, je pense... entre 1950 et 1990, se souviennent peut-être un peu de moi. Mais passé 90, plus personne ne me connaît.
Voilà, donc c'est un peu dommage parce que tu as été à l'époque le plus jeune auteur de théâtre. Hein. On a dit ça à La Réunion dans les années 70. Tu avais, je crois, moins de 20 ans.
J'avais 17 ans.
17 ans, oui. Et tu as monté ta première pièce de théâtre à La Réunion.
Oui, alors en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'il y a quand même un petit préambule. J'étais à l'école militaire.
Oui.
J'étais donc en seconde. Nous sommes en 14 dans une classe, en uniforme, bon, assez rigide, assez discipliné. C'est une école militaire. Et puis voilà que débarque un professeur, un jeune homme qui de 23 ans. Donc il y a pratiquement le même âge que nous, 17, 23, ça fait pas énormément de différence. Et puis c'est un monsieur dont on se rend compte qu'il a une ouverture d'esprit énorme, d'énorme qualité. Alors on passe de Ronsard à Baudelaire, de Camus à Malraux, on découvre les surréalistes. J'écrivais, je lui montre les petits textes qui étaient complètement nul, ceux d'un gamin de 16 ans, 17 ans. Et c'est grâce à lui que j'ai le plaisir et la chance de monter la première fois sur scène. On joue une pièce de René de Obaldia qui s'appelle Classe Terminale, avec des élèves du lycée Roland-Garros et certains de l'EMPR. Et c'est le début d'une aventure pour moi, puisque l'année d'après, j'écris ma première pièce, Eva de toi-même. Et puis après, l'avenir se meurt, voilà, comme ça, après une quinzaine de pièces. Oui, effectivement, j'étais un des enfin, il y avait quand même Louis Jessus, il y avait quand même Kishnappa Naidoo qui écrivait. Mais pour ce qui est, effectivement, j'allais dire de la précocité, ne te moque pas du terme, mon cher Alain.
Ouais.
Pour ce qui est de la précocité, je ne l'avais pas fait exprès. Oui, j'avais écrit ma première pièce à 17 ans. Ouais.
Alors, donc, à l'époque, tu étais dans le Sud, déjà ?
À l'école militaire,
À l'école militaire. Et puis, l'école militaire, justement, comment tu es rentré à l'école militaire ? Si ce n'est pas indiscret, bon... parce que tu n'es pas tellement militariste quand on te voit, t'apprends.
Mais non, pas du tout, mais j'avais un copain qui m'en avait parlé, qui était donc là l'année d'avant. L'école s'est ouverte en 72, moi j'y suis entré en 73. L'idée me plaisait assez, non pas celle forcément d'un univers militaire, puisqu'on ne savait pas ce que c'était, mais celle d'avoir la possibilité d'étudier... sans avoir à se soucier de biens matériels, de situation familiale. Donc j'ai passé un concours où j'étais reçu. Et c'est comme ça. Je suis donc entré en quatrième et j'ai fait ma scolarité jusqu'à la terminale.
Alors ensuite, tu t'es dirigé vers quel métier à la sortie de l'EMPR ?
À la sortie de l'EMPR, en fait, je suis parti à Aix-en-Provence en prépa Saint-Cyr, puisque c'était un peu le cheminement qui devait se dessiner. Comme j'étais assez bon élève, donc mon dossier avait été accepté en prépa Saint-Cyr. Et arrivé à Aix-en-Provence, le théâtre me hantait. C'était une obsession au point que je ne me suis pas adapté à la métropole. Oui. Alors, je voudrais quand même revenir sur deux petites choses. C'est que à l'époque, certains journaux ont parlé de racisme en disant que bon, si j'étais revenu, c'est que j'avais été victime de racisme, mais pas du tout, pas du tout. Je veux dire, c'est un choix de revenir. Et la deuxième idée à laquelle il faut tordre le cou, c'est que je n'ai pas fait Saint-Cyr. Dans pas mal de petites biographies ou d'articles de journaux, on parle de Saint-Cyrien. Non, non, je n'ai fait qu'une prépa que je n'ai pas terminée. Voilà, je suis revenu pour le théâtre en 1978, fin 78, 79, et je n'avais pas de boulot. Voilà, donc j'ai...
Mais ça devait être quand même très difficile de vivre du théâtre, encore plus peut-être à cette époque, parce que bon, y avait moins de subventions peut-être, non ?
Oui, il n'y avait pas de subventions, puisque pratiquement le seul organisme ou la seule institution qui était subventionnée, c'était le CRAC, le Centre Réunionnais d'Action Culturelle, et dirigé à l'époque par Michel Letellier. J'ai eu la chance, moi, d'y rencontrer un de mes maîtres. Hein, après, donc, Patrick Quillet, qui était donc mon professeur à l'école militaire, j'avais oublié de le citer, Patrick Quillet, hein, donc poète, grand prix de poésie de la ville de Lyon, qui est l'équivalent du Goncourt en littérature. Mmh. Donc, je rencontre là Denis Julien, qui devient mon professeur pendant 2 ans, qui me forme à la lecture des classiques, etc. Donc, je joue... notamment avec le CRAC, je joue dans les Trois Mousquetaires avec Michel Leroyer, avec des gens d'ici bien sûr, Axel Kichenin, qui est Lolo, hein, qui nous a quittés cette année. Et en parallèle, j'ai un oncle et puis quelques amis, dont Jacques d'Ambreville, qui me sera d'un grand secours par la suite, qui m'amène à la pêche. Je suis donc... je ne dis pas bardé de diplôme, pas encore ça, mais je suis pêcheur.
Jacques d'Ambreville était déjà fan de pêche à l'époque.
Oui, fan de pêche.
Il était directeur de la MJC de Saint-Pierre.
De Saint-Pierre.
Avant d'aller au Théâtre du Temple.
Voilà, et c'est là que j'ai donc fait la connaissance de Jacques d'Ambreville, qui deviendra un personnage important dans le déroulement de ma carrière. Voilà, j'ai donc été pêcheur pendant 1 an, avant de trouver un emploi à la caisse de retraite, de laquelle j'ai démissionné pour passer le concours de l'école normale pour être instituteur. Éducation nationale que j'ai quitté pour repartir au théâtre. Et puis bon, ma vie s'est faite de balance comme ça entre enseignement, comédie, direction de théâtre, mise en scène.
Et tu as été à Saint-Denis pendant un moment. D'ailleurs, tu étais directeur d'une... je ne sais plus le
d'une,
nom.
D'une salle de...
Une salle, oui.
De le Théâtre Canter.
Voilà, Canter.
C'est une salle en plein campus universitaire. J'y étais directeur de 2003 à 2006, mais auparavant, bon, j'étais directeur à un moment de Source Vive, à la Plaine des Cafres.
Alors, oui, Source Vive, tiens, on s'arrête un instant à Source Vive,
oui,
parce que, bon, on connaît au tampon, au niveau théâtre, c'est très dynamique. Hein. Maintenant, on a François Folliot, qui est un peu, quelque part, la suite de Source Vive.
Qui
hein.
était à Source Vive, oui. Qui était TUC, je crois qu'on appelait comme ça à l'époque, hein, qui était en contrat jeune à sur ce vide, et puis il a décidé, il a bien fait d'ailleurs, hein, de créer sa propre compagnie, de monter ses propres textes, et c'est quelqu'un qui a énormément de mérite et de courage.
Ah, d'azur, ouais. Tu as déjà pensé à travailler avec lui quelquefois?
J'ai joué chez lui, une pièce adaptée par Éric-Antoine Boyer, dont je te parlais tout à l'heure, un personnage important dans la vie culturelle du Sud. Une adaptation d'un roman de Daniel Honoré, Marceline Dubcoeur, qui donc au théâtre s'appelait Croisée de chemin. J'ai donc joué au Théâtre d'Azur pendant 2 ans cette pièce où j'avais le rôle principal. C'est une des plus belles aventures qui me soit arrivée, avec bien sûr quelques pièces de Sciences Vives, avec le passage aussi merveilleux de chez Vollard avec Emmanuel Jean.
Oui, voilà. Parce qu'il y a eu Vollard qui s'est installé fin 79, je crois. J'étais dedans à l'époque d'ailleurs.
Oui, je me souviens.
Je me souviens plus très bien des dates. Et moi, j'allais pour le quotidien. Moi, j'allais faire un article, tu vois, pour le quotidien. Et puis, j'ai été emballé par leur théâtre. Et quand j'ai vu ce type là qui est un peu fou, qui s'occupait de cette petite troupe naissante à la MJC du Tampon, j'ai dit mais le mec il est trop fort, je vais m'inscrire dedans. Et je suis resté dedans 2 ans. Voilà. Et toi aussi, tu es parti, mais je crois un petit peu plus tard.
Plus tard. Puisque,
après Tempête et Ubu.
C'est ça. Ouais. Manu est arrivé en 79.
Ouais.
Donc au Tampon, à la MJC du Tampon, il était psychologue à la PK.
Ouais.
Et bon, il y a eu bien sûr Tempête, Ubu. Moi, j'ai rencontré ce monsieur-là justement en 79. Il était venu voir une de mes pièces que je jouais à Château-Morange. Et chose admirable, ce monsieur qui avait une grande connaissance du théâtre, qui était artiste, qui était musicien de rock à Caen. Manu est venu me voir discuter de la pièce.
Emmanuel Genvrin. Qu'on ne se confonde pas avec d'autres Manu.
Oui, Emmanuel Genvrin est donc venu me voir, il a discuté. Mais ça a été admirable parce que Emmanuel Genvrin ne m'a jamais descendu malgré les faiblesses évidentes de la pièce. Je débutais. Donc il y a des ressorts dramatiques que je ne maîtrisais pas, un langage dramatique qui était sans doute un peu faible. Au contraire, il m'a encouragé et c'est tellement rare dans le milieu que ça mérite d'être souligné.
Et on voit ce que ça a donné après, la troupe Vollard, et puis maintenant Emmanuel, on rappelle qu'il est écrivain.
Il est écrivain.
Il est chez Gallimard. Voilà, c'est un grand monsieur de la Réunion.
Alors en 1989, je quitte l'enseignement et Emmanuel Genvrin et Vollard jouent à Source Vive dans le cadre du festival que nous organisions.
Il y avait une bonne entente entre les deux troupes.
Bien sûr, tous les ans. Donc il venait, lui, avec plaisir. On était heureux de le retrouver. C'est là que je vais le voir en disant Monsieur Genvrin. C'était un monsieur. Je lui dis voilà, bon, j'arrête l'enseignement. Voilà, j'aimerais devenir comédien à temps plein. Voilà, je ne fais que vous passer le message. Et il m'appelle au cours de l'année. Donc, je suis dans La Marie-Décembre, Le Père Vanche, Baudelaire au Paradis. Voilà, je n'ai jamais eu de grand rôle au Théâtre Vollard. Il y avait une équipe terrible, Dominique Carrère, Jean-Luc Trulès, Pierre-Louis Rivière, Arnaud Dormeuil, une équipe de rêve. Mais j'étais tellement heureux de ne faire que de la figuration ou d'avoir des petits rôles.
Voilà, dans une grande troupe.
Dans une grande troupe, mais je n'aurais changé ma place pour rien au monde.
Et puis, je te comprends.
Et puis Emmanuel Genvrin, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, d'une part, a révolutionné énormément le théâtre en termes de rythme, de mise en scène, de scénographie, d'ampleur du spectacle. C'est un peu Mouchkine, c'est un peu le théâtre du soleil. Et c'est aussi une personne que j'adore parce que elle m'a aussi accompagné sans jugement, sans aucune prétention, et c'est devenu un ami.
Il y avait des membres, si je me souviens bien, de la troupe Source Vive également, dans les premières pièces.
Il y avait Alfred Laprat.
Il y avait Brigitte et sa sœur.
Brigitte Plat, oui.
Et puis le compagnon de Brigitte Plat.
Alfred Laprat.
Alfred Laprat, oui. Voilà. Et puis, comment ne pas citer Alain Joron.
Alain Joron, hein, fondateur, avec toi d'ailleurs, de l'équipe de l'aventure culturelle.
Non, j'y suis présent. Non, on a failli réussir à faire une pièce de théâtre ensemble, et ça a foiré parce qu'on n'a pas eu le terrain pour... puis enfin bon, il y avait des bisbilles peut-être un peu politiques. Mais en fait, c'est drôle parce qu'Alain Joron l'a invité d'ailleurs à Radio Sud Plus il y a quelques mois.
Ouais.
Et d'ailleurs, il faut que je lui rende un bouquin. Alain, si tu es à l'écoute, je lui ai piqué son bouquin.
Ouais.
Et donc, ben voilà, il est toujours aussi actif et aussi passionné. Hein.
Mais tu étais dans la création de cette aventure-là avec...
Avec Le Quotidien toujours, mais enfin parce que je faisais des articles, moi je pouvais témoigner de ce qui se passait. Et il y avait les débuts donc de Basse-Terre, Basse-Terre le groupe, évidemment Thierry Goliris, encore tout jeune. Et donc c'est une époque formidable, une révolution vraiment culturelle qui se passait au fin des années 70, fin des années 70 et début des années 80. Enfin voilà, on va revenir à Thierry quand même, parce que là on fait un truc, on se renvoie la balle, mais on a vécu les mêmes choses en fait. Hein.
C'est ça.
On a connu les mêmes génies, enfin génie c'est peut-être un grand mot, mais des gens vraiment qui sont toujours dans le cœur des Réunionnais 30 ans après ou 40 ans après, alors qu'à l'époque c'était un peu des bêtes noires, des maires, des gouverneurs, du préfet, ou de Emmanuel Janvrin, il pouvait pas avoir de subvention, il a été chassé de la mairie du Tampon.
Puis du théâtre Fourcade, puis du Cinérama, puis de...
Et ces gens-là, maintenant, on les honore. Voilà. Donc on voit finalement qui a raison, c'est pas forcément les plus forts.
Non. Enfin, on les honore, il y a encore quelques petites réserves par rapport à Emmanuel, mais personne, en tout cas, ne doute de... Je peux employer le mot, moi, du génie de cet homme-là, qui a énormément apporté au théâtre.
Oh, Emmanuel, si tu nous écoutes, c'est pas ton émission, c'est celle de Thierry, alors... J'espère qu'il nous écoutera. On mettra sur la page Facebook également de Radio Sud Plus. J'essaierai de faire en sorte qu'il écoute l'émission. Il sera content. Alors revenons à Thierry quand même, Thierry Bertil, hein, avec l'équipe également de Sources Vives. Et donc des gens, voilà, comme Brigitte, qu'on peut rendre hommage à Brigitte Plat, qui est décédée malheureusement trop tôt.
Hein. Oui, elle avait 51 ans.
Et puis bah, tous ceux qui les survivants, dont certains sont maintenant au Théâtre d'Azur.
Oui, bah ce sont des amis. Et à ce propos, Alain, je t'ai préparé, enfin je vous ai préparé un petit texte sur l'amitié, si tu veux bien.
Tu as dit sur Facebook que tu voulais faire d'ailleurs parler de tes amis. J'ai dit mais il va y en avoir pour la matinée parce que tu as beaucoup d'amis.
Oui, il y en a plein. Oh, beaucoup. Justement, la sélection va être faite là. Bon, bien sûr, il y a des gens que j'adore, Serge Lantin, dans la poésie, Éric-Antoine Boyer. Ce serait trop long, hein, toutes les chanteuses, Nicole d'Ambreville, Yael Trulès, Stéphanie Tazard, Audrey Dardenne. Mais là, je voudrais parler de l'amitié. Ah, mon cher Alain, l'ami frère, l'ami hein, l'ami, la femme. L'ami, je l'ai déjà dit, c'est comme le bon pain. C'est ce qui vient quand on casse la croûte. Ça arrive invariablement à l'heure de l'apéro. Ça vous dit de laisser les bouteilles sur la table, qui se servira lui-même. Et ça reste. Et ça reste jusqu'au déjeuner, puis au dîner, puis au souper. Et finalement, ça dort là. Oh, ça dit que c'est venu vous consoler ou vous tenir compagnie. Et ça parle, en demandant ce qu'il y a comme digestif. Ça a toujours besoin de fric. Qu'il vous rendra promis, demain. Puis ça vous dit qu'il vous le rendra promis après-demain. Puis bah, l'an prochain, et puis vous finissez par l'oublier. L'ami frère, c'est autre chose. Ça arrive quand le cœur est au bord du précipice. Ça ne dit rien, ça sourit, ça vous donne la collade. Ça vous dit de ne pas pleurer. Et ça pleure lui-même quand on ne le voit pas. Ça repart avec le même sourire, celui qu'il laisse sur les murs sombres. Ça ne demande pas d'argent, mais ça vous en offre, comme si vous étiez au bord du découvert. Ça vous dit que ce n'est pas la peine de le lui rendre demain, ni après-demain, ni l'an prochain, et ça finit par oublier. Ah, l'ami et l'ami, eux, c'est une étoile dans la nuit froide. Des mains qui connaissent la tendresse des cheminées. Des yeux aussi profonds qu'un rendez-vous manqué. Des lèvres à inscrire le célibat dans les constitutions mortes. Des fois ça pleure, mais on ne sait pas pourquoi. Elle s'entend bien avec l'ami frère. Et puis un jour, bah, ils partent ensemble. Et je sais que je ne les verrai pas demain, ni après-demain, ni l'an prochain.
Un beau texte, Thierry Bertil. Alors justement, des textes comme ça, bon, on aimerait les voir édités. Hein. T'as écrit plein de choses, il y en a qui ont été édités dans des petits bouquins faits à l'essai, comme on disait autrefois. Hein. Et puis, malheureusement, tu n'as pas vraiment un livre dans les librairies de Thierry Bertil.
Non.
Mais tu n'envisages pas de le faire?
Des amis, Éric-Antoine Boyer, notamment, et Evelyne Martinet, ont fait une publication d'un texte qui s'appelait « Translucide ». Mais c'est un texte, il faut le dire, assez hermétique. C'est un long poème d'amour qui ne ressemble pas aux bluettes que je fais habituellement. Hein. Mais je vais être aussi honnête, les bluettes que je fais pratiquement chaque matin, ce sont des gammes. Pour moi, ce sont des gammes. C'est un petit peu à la poésie ce que les romans de gare sont à la littérature.
Puis c'est un peu un entraînement pour.
C'est un entraînement.
Ouais. Bon, mais c'est déjà pas mal. Hein.
On peut ne pas aimer, mais.
On rappelle, tu le passes sur Facebook, ça. Hein,
sur Facebook, ce sont des petits textes, que j'écris pour des amis, pour l'amour. Oui, je mets sur Facebook parce que le réseau, c'est quand même quelque chose de. Oui. Formidable, le réseau, Alain, le réseau. Depuis quelques jours, je reçois sur mon mur des photos qu'on me demande de partager. Le problème, c'est que ça émane d'un réseau qui a la même couleur qu'un réseau connu, qui a les mêmes icônes, et qui délivre un message du style « Coucou, beau gosse, tu es trop mignon. Quand j'ai vu ta photo de profil, j'ai su que ça allait coller. » Ce qui peut se traduire par « cocu, gros dégueulasse, t'es trop con. Quand j'ai vu ta photo de profil, j'ai su que ça allait caler. Oh mademoiselle, tu dois être bien jolie ou bien gentille. Trop gentille même car beaucoup de gens s'accrochent à toi. Je ne pourrais même pas te reconnaître. J'ai si peu vu ton visage. Ah le réseau. Peut-être celui ou celle qui m'envoie ces photos est-il celui ou celle qui me déclarait, il n'y a pas si longtemps, indésirable. Une chose est sûre, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, si j'en juge par son absence de vêtements ou quelqu'un qui attend les soldes. Oh, le réseau, celui ou celle qui a fait ça sait bien que les billets d'humeur sont source de malentendus. On ne sait jamais quelle est la part de vérité, pourtant, si jamais vous recevez une photo pour une marque de maillot de bain, de sous-vêtements, mais sans le maillot ni les sous-vêtements, avec juste la personne, sachez qu'elle n'est pas de moi ni de mon fait. Parce que, mon Dieu, quand on a des photos comme ça, esthète que je suis, moi, du cubisme érotique circassien, je ne partage pas, je garde tout pour moi, tout contre moi, non mais...
Il y a un côté un mélange. Déjà, je ressentais ça quand tu faisais la petite émission qu'on avait sur Radio Sud Plus dans les années 80. Il y a quelquefois un côté Pierre Desproges et à la fois Pierre Desproges et Raymond DeVos. Hein. Et alors, faut bien écouter parce qu'il y a des jeux avec les mots quasiment à chaque phrase.
Oui, ça c'est.
Voilà, on ne sait pas comment ça va tourner.
C'est de belles filiations, en tout cas. Moi, je suis heureux quand on me parle de Desproges et de Vos. Bon, ce sont des modèles, bien sûr.
En fait, quelles sont tes sources d'inspiration principales dans les auteurs, comme dans la vie courante, pour les sujets, pour les thèmes?
Pour les auteurs, j'ai beaucoup lu. Bon, j'aime beaucoup Camus, c'est un livre, c'est un auteur de référence, Saint-Exupéry, puisque j'ai joué pas mal de fois
Le Petit Prince,
le petit.
que
Oui,
j'appelais Le Petit Prince sans rire.
le Petit Prince sans rire, ou tu m'appelais Thierry de Saint-Exaspérant.
Ah, c'était pas gentil.
Mais c'était vrai, c'est ce que tu racontais. Non, et puis après. Moi, je ne crois pas à l'inspiration. Je veux dire, on n'est pas comme le romantique un peu phtisique, là, au bord de sa fenêtre, qui attend que la muse arrive, et puis lui, avec sa plume, doit. Non, je crois qu'il y a une part un peu de rêve, de notes, beaucoup de travail pour essayer de trouver des sonorités, des choses qui colle, bon, ou qui colle pas, des dissonances, des allitérations, des figures de style. C'est comme tout, comme pour les musiciens, les peintres, c'est énormément de travail.
On pourrait parler un petit peu aussi, quand tu étais donc toujours au Tampon, hein, puisque tu n'as jamais quitté pratiquement la
Pratique,
région du Tampon, il y avait aussi l'ASCA. Alors l'ASCA, c'était une association qui faisait des petits livres à l'essai, un petit peu comme l'association des écrivains réunionnais à l'époque, tu vois, Thierry à la Renéo, agrafé. Et dedans, donc il y avait plusieurs membres actifs, on va dire, dont toi, et puis Gilbert Rivière, Philippe Frilay, et je te laisse citer les autres parce que.
Il y avait donc Philippe Frilay qui était l'instigateur de ce mouvement, Gilbert Rivière qui était directeur de la MJC à l'époque et qui était membre très actif de l'ASCA, Association Sud Création et Animation, Thierry Martin, qui est un ami que j'ai un peu perdu de vue, qui habite à Saint-Gilles-Léo maintenant. Et c'est là que j'ai connu aussi Pierre Bigot et Raymond Kerbidi, guitariste de talent.
Alors l'association, l'ASCA, elle éditait des livres de poèmes principalement ou de théâtre. Et est-ce qu'elle avait d'autres activités également pour ses membres?
C'était surtout l'édition. Elle organisait
L'édition.
quand même des spectacles, des soirées cabaret en lien avec la MJC du Tampon. Et c'est là qu'on a pu, avec Raymond Kerbidi, Gilbert Rivière et Pierre Bigot, monter le groupe Coïncidence, que tu as connu, mon cher Alain, puisqu'on s'est produit aussi chez Jacques d'Ambreville, à MJC de Saint-Pierre. Avec Raymond Kerbidi, chanteur à texte formidable, Pierre Bigot, guitariste virtuose, j'en
Ah,
passe.
tu as des nouvelles de tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? J'ai rencontré par hasard Gilbert Rivière une fois. Moi, je rappelle quand même Gilbert Rivière, il était à la MJC du Tampon. Et puis, il avait quand même beaucoup œuvré pour la médiathèque, l'ouverture de
Absolument.
la médiathèque du
Oui,
Tampon.
oui. Et il s'est battu
Il s'est battu pour la
fermement
culture beaucoup,
pour
et
la
c'est
culture,
dommage
voilà.
qu'on l'ait un peu oublié parce qu'on ne le voit plus.
Ben parce qu'il n'est plus, il est sur Saint-Paul et il travaille dans une SPL, satellite de la région. Il s'est coupé pratiquement de toute activité artistique. Il est plus dans le cheminement politique. C'est un soutien de l'ancien président de région. Donc voilà, je ne le vois plus. Pierre Bigot, qui est sur Saint-Paul, je ne le vois plus non plus. Je croise de temps à autre Raymond Kerbidi, avec lequel j'ai gardé des liens un petit peu plus forts. Mais sinon, tout ça s'est délité.
Alors, donc, l'ASCA, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, on va pas revenir sur Radio Sud Plus et ton passage à la langue de la pointe zoo, c'était une émission style les grosses têtes un petit peu qu'on faisait, hein, qu'on avait inauguré, alors c'est marrant, à l'ouverture de Radio Sud Plus en 82. Et ça s'appelait Pointes à la ligne. Et le titre avait été trouvé par Guy Sioux. Et donc, je l'animais avec une dame à l'époque qui n'est plus à La Réunion depuis longtemps. Mais c'était vraiment le style un peu à la fois mélange de grosses têtes
L'oreille en coin.
et de Coluche. Et voilà, alors ça plaisait beaucoup aux auditeurs. Après, bah, tu es, on était plusieurs, hein, il y avait des gens de Source Vive aussi. Puis après, tu es venu et tu as fait des textes formidables. On en a même fait à Lasca un petit bouquin.
Un petit bouquin, oui.
Lasca, donc, a sorti un petit peu un livre avec des textes donc, que tu avais fait ou qu'on avait fait ensemble. Et voilà, un jour, il faudra qu'on ressorte le bouquin.
La langue, la poêleuse. D'ailleurs, tu faisais dans cette émission, celle du dimanche, hein, puisqu'on en faisait d'autres dans la semaine, sur la sexologie, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec Claude Denusière.
Ah oui, l'émission de Claude Denusière,
voilà. c'était fou. Où on débouchait une bouteille de vin en direct. Mais ce qui m'a marqué, moi, le dimanche, et il y en a une qui m'a joué un bien mauvais tour. Bon, le premier fait... Pour moi, c'est celui où tu dédicaces un disque. Alors, chers auditeurs, tous les dimanches, mon cher ami Alain Bled prenait un vinyle et disait « Aujourd'hui, nous allons dédicacer un disque. » Et il le cassait véritablement. C'est-à-dire qu'il brisait le vinyle en deux.
C'était pas truqué.
C'était pas truqué.
On pouvait pas le voir, mais c'était, c'était des vieux disques tout pourris, hein, faut le dire maintenant.
Ou alors
des chanteurs tout pourris.
Peu importe, ce qui était énorme, c'était la symbolique
hein,
de dédicacer un disque. Et l'autre fait qui m'a joué un bien mauvais tour des années après, c'est que l'ami Alain Bled, pendant une minute, coupait tout son à la radio, après avoir déclaré « Et maintenant, voici notre minute traditionnelle de mime ».
C'était pas toi ça plutôt.
Non, pas du tout. C'est toi. Et ça m'a joué un mauvais tour quelque part. J'étais en tournée à Mayotte et avec Mickey, Michel Gontier des Pattes Jaunes, Raymond Kerbidi et Dominique Fontaine, éclairagiste qui était au Théâtre du Tempo à l'époque et qui est devenu mon éclairagiste à moi après. Et on a bien été invité à Mayotte pour le Petit Prince. Et on devait aussi animer une grosse soirée pour la venue de Jean-Jacques Kerhan. Alors on fait des réunions avec RFO, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas la télévision de Mayotte. On fait plusieurs réunions.
C'était le ministre
Jean-Jacques Kerhan, qui était ministre des Outre-mer, je crois. Oui. Donc on cale tout ça et donc on donne notre conduite, notre plan de, enfin notre déroulement des soirées avec texte, chansons, sketch, etc. Et il se trouve qu'on démarre la soirée, donc je fais quelques présentations, je dis quelques textes, Raymond chante, et puis j'avais prévu quelques séquences de mime, puisque je faisais pas mal de mime à l'époque. Donc ça se passe sans problème, et il se trouve que on nous avait dit tout, que ça passait à la télé, etc. Donc les gens étaient contents, mais à aucun moment on ne nous a précisé que ça passait également à la radio. Donc voilà comment pendant pratiquement une heure j'ai fait pratiquement 10 minutes de mime à la radio. Alors le directeur Gérard Roussin du CMAC, Centre Maori d'Action Culturelle, qui était près de la barge, dans sa voiture, qui n'entend plus rien sur la bande, sur la fréquence, qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ce con de réunionnais ?» Il parlait de moi. Et voilà. Et voilà comment on a appris après que, pour la première fois dans l'histoire de Mayotte, un réunionnais avait fait du mime à la radio.
Ah, il faut le faire. Non, c'est des anecdotes formidables. Alors, on va maintenant venir au présent, parce qu'on est toujours vivant. Enfin, tu es toujours en pleine forme, hein, en tout cas, je pense. Hein. Et quels sont tes projets? Tu n'envisages vraiment pas d'avoir une publication plus importante que sur Facebook pour ce que tu fais?
J'ai envoyé un mail à Jean-François Samelon de lui dire, qui m'a répondu que sur le principe, lui, il n'était pas contre, mais que la poésie était un domaine dans lequel il y avait énormément de demandes, tout au moins pour lui dire, et qu'il fallait qu'il soumette ses textes à un comité de sélection, ce que je peux comprendre. Ce qui me manque, c'est surtout la publication des textes de théâtre.
Oui.
Parce que pour moi, c'était le plus important dans mon parcours. Mais bon, ça.
Il y en a à l'époque qui ont été publiés par l'ASCA.
Oui, deux ou trois, mais bon, j'en ai écrit pratiquement une vingtaine. Et, donc.
Et est-ce que tu pourrais, à défaut de les mettre sur papier, les mettre sur Internet en livre électronique ou sur un blog ?
Il faudrait que je me renseigne, enfin, que je me fasse aider parce que je ne suis pas très, je maîtrise oui, pas trop ces nouvelles,
l'ancienne génération.
Voilà, ces nouvelles technologies.
On sera moins à l'aise que les jeunes qui maintenant, bah, ah bon, j'ai pas d'éditeur, bah, ouais. Allez, j'envoie balader les éditeurs, j'aime éditer moi-même. Et ils s'éditent tout seuls.
Oui, oui, mais.
Alors que nous, si on n'avait pas d'éditeur, je m'éditais tout seul.
Voilà, les jeunes, ils sont super. Mon fils m'a beaucoup aidé déjà pour créer le compte Facebook. Je ne savais pas comment on le créait. Je ne savais même pas comment on mettait une photo de profil. Enfin, bref. Mais ceci étant, les jeunes, quelquefois, c'est particulier. Bonjour Alain, j'ai pris un bus pour aller à Saint-Denis. À un arrêt. Une bande de jeunes décervelés à crâne rasé ou casquette de travers, cette bande monte, après avoir bien sûr rituellement insulté le conducteur, il s'arrête devant moi et l'un d'eux dit « Hey frère, ils ont sorti tout ton camon !» J'ai commencé à leur raconter l'histoire du petit prince, du mouton, quand on me reprit « Mouton !» C'est en bubon qu'on va te transformer, même que ta mère elle t'appellera Airbag. Un autre, soucieux sans doute de réponses existentielles, me questionna. Qu'est-ce que tu calcules? Tu veux que je te nique? J'en demandai la signification à la religieuse assise à côté de moi. Elle fredonna simplement d'un nique. Soucieux quant à moi de l'image de cette jeunesse sans repère, sans service militaire et horreur, peut-être même son première communion, je me pressai de faire remarquer au chef que son pantalon était beaucoup trop large pour son indice de masse corporelle. J'ai pas vraiment senti les coups. Je me suis réveillé couvert de bandelettes, momifié comme un Toutankhamon moderne, avec une jolie infirmière sans passe sanitaire qui me regardait en faisant des signes de croix. J'aime pas les jeunes.
La série des j'aime pas. Ah oui, non, mais il y a des textes sur Facebook formidables. Alors, tu as pas mal de commentaires d'ailleurs, hein, tous élogieux. Et bah, c'est bien, mais il faudrait que tu reviennes de temps en temps sur scène, ou pourquoi pas sur une radio.
Et pourquoi pas sur une radio. Et oui. Ouais.
Voilà, bah Thierry, on a fait long, hein.
C'est vrai?
Oui, on pourrait parler comme ça pendant des heures, mais enfin, bon, faut quand même qu'on laisse de la place aussi à d'autres actualités dans l'émission. Mais tu es le bienvenu quand tu veux.
Je voulais juste, même si je vais dépasser le temps, je voulais dire, Alain, j'aime pas les fins. Voilà. J'ai goûté à tout. Hein, j'ai pas les fins, mais c'est comme ça. J'aime pas les fins. Toutes les fins. La faim dans le monde, la grève de la faim, et surtout la faim d'un spectacle ou d'une émission. Non, mais c'est vrai, Alain, on a passé un fin moment. Bon, un bon moment, bon, disons un moment moyen. Car qui le veut fin, le veut moyen. Oui, je sais, j'ai l'air fin, et pourtant je feins de ne pas en avoir l'air. J'ai l'air fait, comme je te dis. Mais afin de conjurer mes mots et pour te remercier enfin, Alain, je vais te laisser et laisser Radio Sud Plus le mot de la fin.
Merci Thierry et à très bientôt.
À bientôt.
Ah, on a oublié quelque chose d'important, Thierry.
Oui.
Le disque, on met toujours une chanson au milieu pour aérer un peu l'émission. Donc je t'ai demandé quel titre tu voulais et tu m'as dit...
Je voulais... Enfin, j'aurais souhaité qu'on mette un extrait de la musique de Jean-Pierre Joséphine, qui est un musicien avec qui j'étais à l'école militaire, avec lequel j'ai débuté dans l'orchestre de l'école militaire, même si je n'étais pas très doué. Donc Jean-Pierre Joséphine, un extrait de Sentier Montracine, si c'est possible.
Et donc c'est quelqu'un, oui, que tu as bien connu.
Que j'ai bien connu, avec lequel j'ai aussi des liens familiaux très proches.
Ben ouais, le monde est petit autant pour. On a l'impression que tout le monde se connaît ou a des liens familiaux.
Ben oui.
Et ben merci Thierry d'être venu.
Merci.
Thank you. Merci beaucoup.